Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu cette semaine vous parler du ras-le-bol des personnels des commissariats. Eh ouais, c'est un service public en déshérence, c'est du moins ce que nous dit le syndicat Alliance, syndicat policier classé à l'extrême droite et premier syndicat policier chez les gardiens de la paix en pourcentage de vote aux élections professionnelles. Ce syndicat appelle la population à manifester aux côtés des policiers parce que malgré le maintien des effectifs, ce qui n'est pas du tout le cas dans tous les autres ministères, et même une hausse de 25% des policiers municipaux depuis 2015, malgré une augmentation du budget, malgré un renforcement législatif des droits des flics, ces derniers ont le bourdon. Il faut dire que les libéraux qui nous gouvernent se sont bien appuyés dessus pour réduire toute velléité de révolte et à un moment, quand vous tirez sur la corde, eh bien elle craque. Eh oui, ils n'en peuvent plus. Alors on a beau avoir les coups des francs, on a beau blouser l'IGPN assez facilement, on a beau se prendre seulement du sursis quand on se fait rattraper par la patrouille et être systématiquement défendu par le ministre de l'Intérieur alors que c'est parfois indéfendable, eh bien ça ne donne pas toujours du sens à sa vie. Pour Alliance, il faut, rappelons-le, se débarrasser des nuisibles, oui, il parle d'êtres humains, et avoir une présomption de légitime défense pour la police parce que le problème, c'est la justice. Je crois avoir résumé un petit peu les valeurs du syndicat Alliance. La justice, qui n'est pas toujours solidaire avec les agents coupables de violence, voire de meurtre. Les policiers n'ont pas le droit de faire grève, mais on a vu depuis quelques années que leurs manifestations, quand ils ne sont pas en service, sont bien bien soutenues par ceux qui font leur carrière dans la politique. Et on voit mal des collègues les empêcher d'y aller. Alors espérons qu'ils n'auront pas leurs armes sur eux, parce que parfois, ils s'en servent, alors que faudrait peut-être pas. Pour connaître l'action de la police quand elle dérape, on vous conseille le boulot du site Flagrant Déni. Ça s'écrit flagrant, tiré, le tiré du 6, c'est déni, D-E-N-I, il n'y a jamais d'accent sur les adresses internet. flagrant-deni.fr. On aurait pu vous parler des meurtres des policiers de l'immigration états-unien. Oh ! Un homme de 37 ans a été tué samedi 24 janvier après une femme début du mois de janvier. Ça se passe à Minneapolis, aux États-Unis. Dimanche, sur France Info, à ce propos, on a pu entendre ça.
Je vous le disais, un Américain de 37 ans, victime de plusieurs tirs mortels des agents de l'ICE à Minneapolis hier. La ville est secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations contre les opérations de cette police de l'immigration. Bonjour.
Bon, le meurtre, c'est-à-dire l'homicide volontaire, devient des tirs mortels. Oui, on euphémise sur France Info, toujours un peu. Et quand il parle de manifestations, en fait, c'est une résistance populaire aux arrestations. De la désobéissance civile pure et dure. Le journaliste va ensuite donner la parole à un invité, Lauric Henton.
Bonjour Lauric Henton.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin, co-auteur de Rock'n'Road Trip, la route 66 en musique, aux éditions hors collection. Minneapolis est une nouvelle fois sous le choc.
Et oui, pour à peu près les mêmes causes qui déclenchent les mêmes effets, mais alors ça pose un certain nombre de problèmes qui sont beaucoup plus profonds sur le fonctionnement des États-Unis, et c'est une espèce de poudrière dans une année électorale en plus. Donc le premier événement, le 7 janvier, était déjà très problématique parce que c'est deux versions radicalement des faits qui s'opposent.
Oui.
Mais là, on a rebelote avec on sait du côté de l'administration Trump, une loyauté absolue qui est fondée sur le mensonge de l'élection volée de 2020. Donc le rapport fondamental à la réalité et à la vérité est déjà un tout petit peu biaisé. Et là, on voit effectivement que la version de l'administration ne semble pas véritablement collé avec la réalité.
Bah oui, parce qu'il y a des vidéos, pardonnez-moi Lauric Henton, mais il y a des vidéos qui ressemblent relativement claires quand on les voit.
Alors, même si, par exemple, la vidéo qui circule le plus, bon, c'est pas vraiment, on voit qu'il y a plusieurs...
Non, vous ne rêvez pas, l'invité n'est pas un membre d'un syndicat de police. Quand il y a un meurtre policier en France ou des violences, eh bien, dans les médias, on invite des syndicats de police. Et c'est pas non plus un porte-parole de l'IGPN qui dira, oui, non, mais faut qu'on attende la fin de l'enquête, qu'on va parfois pas faire. Ah oui, il y a des cas. Ni un ministre de l'Intérieur, non, c'est un universitaire, un chercheur, donc beaucoup plus neutre, hein, et attaché à décrire le réel, il veut garder une crédibilité auprès de ses pairs. Et non, vous ne rêvez pas encore, le journaliste s'appuie sur des vidéos prises lors du meurtre en indiquant qu'elles, je cite, sont relativement claires quand on les voit. Sans ramener le contexte, parce qu'habituellement, bah, y a l'idée de « oh oui, mais on n'a pas vu avant, on n'a pas vu après », sans charger la victime non plus. Ouais, parce que là, on a l'impression dans certains médias que ce sont tout simplement les relais des porte-parole du ministère de l'Intérieur. En clair, pour entendre une description réelle d'un meurtre policier sur... Ah oui, meurtre. Pourquoi on parle de meurtre? Parce que c'est un homicide volontaire. Voilà, c'est la qualification. D'accord? Quand quelqu'un tue quelqu'un et qu'il le fait exprès, ça s'appelle un meurtre. Donc, une description réelle d'un meurtre policier sur la chaîne d'information d'État, eh bien, il faut que ce meurtre ait lieu bien ailleurs qu'en France. On aurait pu vous parler du cessez-le-feu entre les djihadistes qui ont pris le pouvoir à Damas avec l'aide de milices financées par la Turquie et les forces arabo-kurdes du Rojava. Un cessez-le-feu qui date du milieu de la semaine et qui est très fragile au dire des Kurdes du coin. Au Mans, une banderole avait été accrochée dans la nuit du 24 janvier au dimanche 25 janvier, sur une grille du jardin de la cathédrale, au-dessus du jet d'eau. Une grille plutôt inaccessible. Une banderole qui rappelait le caractère djihadiste des autorités syriennes et de la nécessité de défendre le Rojava, avec un mot dièse, hein, comme on dit, hein, défendre Rojava. Dimanche matin, un valeureux policier municipal est allé escalader les grilles pour décrocher la banderole. De fait, il a pu en décrocher que la moitié, empêchant de lire le message. Et depuis, eh ben, la banderole, elle est restée accrochée très très longtemps cette semaine. Et elle pendouille. Symboliquement, ça montre que l'esthétique n'était pas en cause. Non, non. C'était peut-être plutôt le message qui gênait. Pour en savoir plus sur le Rojava, bien sûr, le livre de Pierre Bance, qui décrit les structures de cet état atypique, La fascinante démocratie du Rojava, aux éditions Rouge et Noir, La fascinante démocratie du Rojava, qui date de 2020, et plus actuel, pour être informé, n'hésitez pas à aller voir sur kurdistan-du6o. AU-féminin.fr kurdistan-du6o-féminin.fr. Plus léger. Dans la série, quand la connerie sera vendue au kilo, on saura exactement où aller se fournir. On aurait pu vous parler de Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, qui a voté un rapport du Parlement européen sur la souveraineté technologique et notamment numérique, alors que le rapport dénonce les partis qui relaient la propagande étrangère, dont Reconquête. Eh oui, par chez moi, on appelait ça des cadors. C'était pas très positif. Sinon, on ne peut plus parler du chauffage dans les écoles primaires, en particulier dans les écoles primaires des quartiers pauvres. Ah non, ça suffit maintenant, hein. Qu'on prenne qui pourra. Mais non, parce que finalement, on a préféré vous parler des municipales.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas de vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Les casseroles des candidats d'extrême droite continuent de tintinabuler. Au Mans, chaque vendredi, sous le regard d'un grand gros bras, des militants du parti raciste distribuent des tracts au marché des Jacobins en discutant tranquillement avec les militants de la liste Sasso. Par contre, celui qui distribue pour la liste Le Foll, il est pas très enjoué de se retrouver encerclé par ce genre de personnages. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur présence sur les listes électorales, il convient d'aller sur servicepublic.gouv.fr ou dans votre mairie. À chaque élection, des petits malins nettoient les listes et virent des électeurs. Dans certains quartiers en particulier, certains parlent d'une espèce de complot, hein, bien compris. Bah oui, si vous voulez pas que ça soit tel ou tel qui soit élu, bon, on sait très bien qu'il y a des sociologies particulières dans certains quartiers, plutôt des pauvres, ou plutôt des immigrés, ou plutôt des riches. Bah du coup, vous les enlevez, vous nettoyez les listes. Franchement, j'ai cherché, hein, et en 2024, en 2022, en 2020, j'ai entendu des histoires de gens qui parfois étaient plutôt proches de moi, qui se demandaient comment ça se fait alors qu'ils n'avaient pas déménagé, qu'ils avaient été nettoyés et qu'ils allaient voter très régulièrement. régulièrement. Eh bien, à chaque élection, ces petits malins qui nettoient les listes, on se demande bien selon quels critères. Si quelqu'un sait, qu'il n'hésite pas à écrire à cette adresse, c'est pas moi@no-6log.org, c'est pas moi tout attaché, @no-6log.org. Les nouveaux ou ceux qui auraient été radiés peuvent s'inscrire ou se réinscrire sur les listes avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile jusqu'au 6 février à la mairie Place Saint-Pierre ou à la mairie annexe de Pontlieu. Pour les manceaux, pour les autres, allez voir à votre mairie, demandez. « Ouais alors, et moi je suis dedans, oui, tu n'as pas été nettoyé. » Et puis, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Et puis une question agite le landerneau manceau. Elle y va ou elle y va pas? Tout le monde sait de qui je parle, je ne la citerai donc pas. Dans cette satanée démocratie représentative, les citoyens avilis au simple rang d'électeurs attendent souvent de l'élu ce qu'ils devraient faire eux-mêmes, de la politique, et prendre des décisions en responsabilité. Aussi, ils attendent de l'élu qu'il soit fort, ferme et puissant, comme eux. S'il n'avait pas été aussi lâche, s'il n'avait pas choisi de se déresponsabiliser de leur citoyenneté sur un représentant en étant simplement des électeurs. Et la tête de liste, espèce de tête de gondole politique, représente donc tous les électeurs, mais voilà, quand il n'y en a pas, tout s'écroule. Les idées, c'est accessoire. Les autres membres de la liste, c'est accessoire. L'électeur veut une incarnation, oubliant de facto le caractère collectif de toute décision dans une démocratie non dévoyée. Faut dire qu'on ne nous apprend pas, mais parlons d'autre chose. Alors, elle ira pas? Eh bien, la suite au prochain épisode, on nous a promis que ce serait la semaine prochaine. Depuis plusieurs semaines, nous faisons référence à Action commune au pluriel et à Fréquence commune au singulier. Et pour vous en dire plus sur ces structures, en l'occurrence une association et une coopérative, nous avons pris contact avec Thomas Simon qui se présente lui-même.
Je m'appelle Thomas Simon, je suis un des fondateurs de la coopérative Fréquence Commune qui a le siège à Grenoble mais qui intervient partout en France pour accompagner les communes et les listes participatives.
Une coopérative pour accompagner les listes participatives aux municipales et après ? Commençons donc par l'idée de coopérative. Voilà ce qu'est Fréquence commune. Fréquence commune, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire quoi ?
Une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, c'est une entreprise en fait, un peu comme les SCOP qu'on connaît plus. Et les SIC, ça va être une forme de coopérative qui va permettre de faire du multisociétariat, c'est-à-dire que l'entreprise appartient à différentes personnes, que ce soit les fondateurs, les communes, des citoyens engagés, des chercheurs. L'idée, c'est d'avoir cet outil-là pour mener des actions collectives d'intérêt général.
Donc l'intérêt général prime, même si c'est un organisme de droit privé. Comme toute coopérative, une SIC, ça s'écrit SCIC, pourquoi pas une SCIC ? Ben non, une SIC. Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, est une entreprise qui respecte le principe « une personne, une voix ». Et dans le cas des SIC, des personnes morales peuvent être associées au capital. Alors, avec, là encore, les personnes morales n'ont qu'une voix, et peu importe la quantité de capital apportée. Chacun est un acteur du projet, peu importe son poids. Dans le cas de Fréquence commune, on compte 8 sortes d'associés qui sont appelés sociétaires. On trouve donc les salariés, les fondateurs, dont Thomas Simon, qui sont donc un collège, des accompagnateurs, des municipalités, des collectifs, des bénévoles, des chercheurs et les partenaires. Tous ont mis plus ou moins d'argent dans le projet et décident ensemble des orientations de ce projet avec pour chacun une voix. La démocratie appliquée au monde de l'entreprise. Ah, ça change un petit peu du CAC 40. Pourquoi ce modèle et pas une vulgaire boîte de conseils lambda ? Thomas Simon nous répond.
Vous avez choisi le modèle coopératif, mais il existe d'autres sociétés qui sont des sociétés, elles aussi de droit privé, mais qui n'ont pas du tout ce statut et qui ont par exemple participé au comité citoyen qui a eu sur le climat, qui ont été présents aussi sur la fin de vie. Pourquoi ne pas avoir choisi de créer une entreprise de base ? Pourquoi une coopérative ?
Donc déjà, nous, individuellement et collectivement dans ces fondateurs-là, on n'est pas le moteur, c'est pas de gagner de l'argent. Il n'y a pas un modèle de volonté d'enrichissement personnel ou collectif avec ça. On est tous très actifs bénévolement depuis très longtemps sur cette cause de la démocratie directe. Et donc l'idée, c'est que déjà une entreprise normale avec un fonctionnement hiérarchique ne nous convenait pas beaucoup. Mais il y a quand même cette volonté d'avoir un modèle économique qui nous permet de mener nos actions et de vivre moins dans la précarité. Et donc, on crée une entreprise plutôt qu'une association pour créer ce modèle économique-là. Et après, il y avait aussi s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on défend dans les communes et les listes, c'est-à-dire de l'horizontalité, de la collégialité, du partage du pouvoir. Et donc ça, c'est une expérience hyper riche de partage de décisions qu'on a eue avec la coopérative. Et donc, les coopératives nous semblaient vraiment correspondre à cette philosophie-là de la démocratie plus directe. On a hésité entre la SCOP et la SIC, et là on a fait la SIC aussi parce qu'on avait l'ambition de mettre en réseau potentiellement, on savait pas trop comment ça allait se passer, mais mettre en réseau aussi toutes ces communes qui ont gagné et tous ces collectifs, et on trouvait que la SIC était un meilleur véhicule pour faire ça.
Démocratie directe, horizontalité, collégialité, des mots très très peu utilisés par les libéraux, dont je rappelle la philosophie est basée sur l'égoïsme de chacun qui permettrait de multiplier, c'est du moins ce qu'ils disent, les richesses. Pourquoi faire ? Eh ben pour multiplier les richesses. Oui, merde, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors que bon, bah, démocratie directe, horizontalité, collégialité, on décide ensemble, on s'entraide, la solidarité. Waouh, moi je trouve ça meilleur, franchement meilleur. Ces mots animent les fondateurs de Fréquences Communes depuis le début. Et d'ailleurs, quand et comment a commencé cette histoire ? On écoute encore Thomas Simon.
Quand a été créée Fréquences Communes ?
Donc Fréquences Communes, on l'a créée suite aux élections municipales de 2020. Donc la décision de la création, elle remonte à juste après les élections 2020, mais ça a mis un an à se lancer, donc officiellement elle est née en 2021.
Ça veut dire qu'elle a été créée avant les municipales de 2020, en vous disant déjà on va essayer de capitaliser sur les différentes listes, etc. Ou c'est après que vous vous êtes dit il y a besoin d'un outil absolument pour essayer de fédérer, d'organiser toutes ces listes participatives?
En fait, ce qui se passait, c'est que ça remonte à bien avant ça. Il y avait l'expérience de Saillant en 2014, cette petite commune dans la Drôme qui a gagné le municipal et en essayant de faire le plus de démocratie possible au niveau local dans la Drôme. Et donc, cette expérience-là a suscité un élan dans différentes communes de la création d'un réseau. Donc, au début, ça s'appelait la Belle Démocratie. Ça visait à soutenir un peu des démarches de liste citoyenne participative dans laquelle plusieurs d'entre nous étions déjà engagés. Ensuite, en 2019, on a décidé de créer en plus une association qui s'appelait Action Commune au singulier, en se retrouvant en fait à plusieurs acteurs, dont une partie de gens qui avaient participé au Fearless City. C'était un événement organisé par la ville de Barcelone en Espagne en 2017 sur la question de municipalisme et de démocratie directe. Et donc, on s'est retrouvé une délégation française là-bas. C'est là qu'on a fait aussi connaissance avec certains des fondateurs de la coopérative. Et donc bref, en 2019, on dit il faut un réseau qui mette en visibilité toutes ces listes qui sont en train de se monter. Et donc on crée l'association Action Commune. Et donc on fait ça à une dizaine de personnes. Et on réussit à mettre en visibilité en partie les listes citoyennes participatives, à toucher quelques médias, à créer la cartographie, et puis être en soutien sur le terrain et à distance de ces listes qui se montent. Donc plus de 400 listes citoyennes et participatives, 12 000 candidats aux élections municipales de 2020 et il y en a 66 d'entre elles qui gagnent. Donc c'est le Covid en même temps, hein, à ce moment-là. Après les périodes de confinement, les 10 personnes qui avaient fondé l'association et Action Commune, on se retrouve et on se dit bon, bah, est-ce qu'on met nos cœurs de métier au service de ces communes qui viennent de gagner ? Certaines d'entre nous étant facilitateurs, donc notre travail c'est d'animer des assemblées et d'autres chercheurs, et donc on décide de continuer l'aventure, mais avec un autre modèle qu'une association, une coopérative, parce que l'objectif c'est aussi de vendre des prestations aux communes pour avoir un modèle économique qui nous permet de dédier tout notre temps à cette cause-là.
Revoilà donc Action Commune, oui, Fréquences Communes vient d'Action Commune. Revoilà Action Commune au pluriel, le réseau actif depuis 2020 est toujours en place, dont l'action est détaillée sur actioncommune.org, un site dont nous vous avons déjà vanté les ressources, des petites fiches permettant d'animer par exemple des groupes, par exemple de faire des élections sans candidat, par exemple d'éviter un tant soit peu la personnification du pouvoir. Voilà, allez voir, c'est franchement fantastique, ça réinvente pas la démocratie. Mais en tout cas, ça nous donne des idées qui sont totalement différentes de ce que l'on pourra entendre sur les réseaux habituels comme France Info, le journal des municipales, faut que j'arrête. Un site dont nous avons déjà vanté les ressources, allez y voir, action au pluriel, commune au pluriel, .org. Thomas Simon a aussi évoqué Thomas Simon a aussi évoqué les Fearless Cities, un réseau de villes qui n'ont même pas peur, si on essaye de traduire, et qui ont pour point commun de s'appuyer sur les écrits et la pensée de Murray Bookchin. Bookchin et le municipalisme libertaire qui nous avait accompagnés durant toute la saison 2019-2020 à l'occasion des dernières municipales pour les auditeurs qui nous suivent depuis longtemps. Mais des émissions qui ne sont plus en ligne. Alors, ouf, rattrapage, avec une interview de Floréal Romero, auteur de plusieurs ouvrages sur Bookchin et le municipalisme libertaire, appelé aussi communalisme. Et ça, vous pouvez les retrouver dans les émissions du 28 septembre 2024 et suivantes, qui sont toujours en ligne sur la page Radico Libre du site radioalpa.com. Revenons à Fréquence Commune. Le sujet a déjà été un peu effleuré, mais au fait, à quoi sert la SIC Fréquence Commune?
Quels sont les objectifs de Fréquence Commune? À quoi vous servez?
Donc nous, notre raison d'être, c'est de soutenir les élus et les habitants qui réinventent la démocratie au niveau local. Mais donc concrètement, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accompagne des collectifs et des communes à animer des assemblées citoyennes pour faire de la démocratie directe. Donc on va sur le terrain et on anime des assemblées sur l'avenir de la station de ski dans un village de haute montagne, sur l'avenir d'une friche urbaine dans une commune dans le Tarn, sur l'avenir du collège et du stade dans une commune à Aisne vers Perpignan. Voilà, en gros, des décisions politiques qui doivent être normalement décidées par des élus dans le fonctionnement républicain. Et nous, on pense que dans le fonctionnement démocratique, c'est aux habitants de se saisir de ces questions-là et de décider. Et la chance, c'est d'avoir des élus vraiment convaincus de l'importance de partager le pouvoir, qui n'est pas souvent le cas. Et comme dans ces communes-là, c'est le cas parce qu'ils sont issus de cette idée de partager le pouvoir avec les citoyennes, et bien on peut expérimenter énormément de choses dans la décision collective.
Vous venez de faire une différence entre le modèle républicain et le modèle démocratique. Et pourtant, régulièrement dans les médias, on entend dire que la démocratie est républicaine, la République est démocratique. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit élément de différence?
Donc ça, c'est des débats qu'on a en interne. Moi, je suis personnellement, je tiens à cette distinction-là, mais on n'est pas tous alignés. On est en train de rechercher aussi si on fait ces distinctions-là de cette manière-là. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est quoi la démocratie? Est-ce qu'on est vraiment en démocratie quand on peut pas décider de l'avenir sur nos retraites, quand 93% des actifs sont contre la réforme des retraites et que le président peut la mettre en place? Donc ça, c'est au niveau national, mais au niveau local, en fait, les décisions sont prises par les élus et non pas par les habitants. Quasi exclusivement. Des fois, on consulte la population pour avoir son avis, mais à la fin, c'est les élus et souvent le maire qui tranche, qui a beaucoup de pouvoir. Donc nous, on questionne vraiment le fait d'être en démocratie. Mais par contre, souvent, ce qui nous est opposé, c'est oui, mais c'est pas la dictature. Et donc nous, à aucun moment, on dit qu'on est en dictature. On dit que le fonctionnement est républicain, c'est-à-dire que il y a une délégation de pouvoir qui est faite des citoyens aux élus qui décident à leur place. Donc ça, c'est le fonctionnement républicain. Et après, si on regarde un peu les textes et les débats qu'il y avait pendant la Révolution française, notamment Sieyès qui défendait, clairement, il y a des citations, je ne la sais plus par cœur, mais qui disait « La France ne saurait être une démocratie, il faut que ce soit une république. Il faut que les décisions soient prises par des représentants élus et non pas directement par la population. » Et donc, c'est une distinction qu'on a oubliée et qui, pour nous, est questionnable et surtout ne permet pas aux citoyens aujourd'hui d'imaginer un fonctionnement démocratique, parce qu'on appelle démocratie le fonctionnement actuel.
Eh oui, les mots ont parfois un sens qui est dévoyé. La fameuse démocratie dont nos élus ont plein la bouche. Oui, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, ils n'ont pas un échantillon sur eux. Aïe, aïe, aïe. Pour rendre compréhensible la citation, à la citation à peu près de Thomas Simon, bah oui, on n'est pas des robots. Notons qu'il fait référence à l'abbé Sieyès. L'abbé Sieyès qui est bien connu au Mans pour avoir donné son nom à une rue souvent bouchée qui permet de rejoindre le tunnel quand on est du côté de la chasse royale, mais qui est surtout l'un des penseurs politiques de la Révolution de 1789 et qui, dans un discours de septembre 1789, explique en effet que le peuple, bah c'est bien gentil, mais qu'il vaut mieux compter sur les instruits, que les éduquer, en clair, la bourgeoisie va prendre des décisions pour tout le monde et ça sera pas mal. Il soutient par exemple cette idée de citoyen actif pour diriger le pays. À propos de la querelle République-Démocratie, on pourra lire un bouquin qui est vraiment très très bien, de Bernard Manin, qui s'intitule « Principes du gouvernement représentatif ». Un livre où Bernard Manin décortique la dérive pratique dans les faits, de la démocratie vers la simple élection de représentants. C'est ça la démocratie ? Eh ben non, en fait, pas du tout. Donc je vous rappelle le titre « Principe du gouvernement représentatif » de Bernard Manin. Ça a plus de 20 ans déjà. Pour revenir sur l'objet de Fréquence commune, il est clair. Faire vivre la démocratie au moment des élections, mais surtout après. Une fois que les listes participatives et citoyennes, donc des listes démocratiques, ont remporté les mairies. Alors comment remettre de la démocratie dans le modèle républicain ? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Que vous dire de plus ? C'est bien qu'il se passe plein de trucs dans notre belle cité et dans le département tout entier. Et par exemple, qu'il y a un centre social autogéré qui s'appelle l'Allumette, qui est présent 7 rue de la Marne à Le Mans, où il se passe plein de choses, notamment tous les mercredis et samedis de 14h à 19h. Et bien, c'est ouvert à tout le monde pour, je cite, « boire un verre et discuter, cuisiner, laver son linge, emprunter les livres à la bibliothèque, utiliser la salle informatique, lire, jouer à des jeux de société, être accompagné sur des démarches administratives. » Et puis, avec des jours bien particuliers, vous avez également des activités comme des ateliers pour améliorer son français, c'est tous les lundis, une cantine vegan, ça aura lieu le samedi 28, conversation en français, là aussi, café réparation, café couture, ça sera le samedi 28 février aussi. Des activités diverses et variées entre aides personnes exilées les samedis 7 et 21 février de 14h30 à 10h. À 16h30, je vais y arriver. Et puis, n'hésitez pas à aller les voir pour leur donner des sous. Pourquoi ? Parce que comme c'est autogéré, il n'y a pas trop de subventions. C'est-à-dire que il n'y a pas du pognon qui est mis à perte, par exemple, pour que des gens s'achètent des lunettes. Ouais, je veux parler du budget de l'Élysée. Eh bien, vous pouvez les joindre également au 07 57 18 80 16. 07 57 18 80 16. Et allez les voir, cette rue de la Marne, je vous dis, tous les mercredis et samedis de 14h à 19h. Sinon, tous les samedis depuis octobre 2023, une manifestation a lieu à 14h, place de la République. Alors, c'est pour se souvenir qu'il y a des gens dans la bande de Gaza, mais aussi en Palestine, mais aussi dans d'autres endroits, qui subissent des occupations militaires et qui subissent aussi des violences de la part de colons israéliens qui se définissent comme tels, animés par quoi ? Animés souvent par une foi indéfectible. Eh oui, quand on est animé par une foi indéfectible et que c'est Dieu qui nous pousse forcément, on a tendance à en rajouter des kilos. Et c'est pour ça que des gens sont tués régulièrement, par exemple en Cisjordanie, par des colons et qu'ils n'ont pas trop de problèmes avec la justice du pays qui s'appelle Israël, qui, je le rappelle, est dirigé par un gouvernement d'extrême droite religieuse. Ouais, ça craint un peu. J'aimerais pas y habiter. Eh bien, ça se passera donc à 14h pour les auditeurs du direct à Place de la République et contre l'occupation israélienne. Également, on peut voir cette semaine, mercredi 4 février, un ciné-débat en avant-première au cinéma Le Palace à la Ferté-Bernard dans le cadre du festival Regard sur le monde rural, qui a lieu essentiellement à Mamers, mais pas que. Regard sur le monde rural. Et là, le film s'intitule Soulèvement et il parle des soulèvements de la terre. Ça aura lieu le mercredi 4 février 2026 à 20h, cinéma Le Palace, la Ferté-Bernard, autour du film Soulèvement, qui parle des soulèvements de la terre. Et enfin, on peut citer également le jeudi 5 février, à partir de 12h, à 12h, place de la République, il y aura un stand pour expliquer ce qu'est la campagne BDS, qui a pour but d'éviter de donner trop d'argent à l'État d'Israël qui occupe des territoires et en profite pour récupérer des ressources. Et par exemple, y a des avocats et des agrumes qui viennent de territoires occupés. Ce serait carrément bien de ne pas les acheter. Et c'est pour se souvenir également qu'il y a des entreprises françaises qui participent à ce genre de choses en armant l'armée israélienne. Tiens, de même, il y a une autre entreprise française, Capgemini, qui arme l'ICE en balançant des gens qui sont sans papier. Mais comment on peut travailler dans ce genre de truc ? Sûrement en ayant un problème d'éthique. d'éthique. Qu'est-ce que je raconte, sûrement en n'ayant pas du tout d'éthique. Bon, ben, tout ça pour vous dire que si vous cherchez des informations, n'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net, sarthe.demosphère.net et puis larnapé.info, larnapé avec un E à la fin. Pour tous ceux qui habitent dans le coin, vous savez très bien de quoi je parle, larnapé.info. Eh bien, en attendant de se retrouver ici, ailleurs ou je ne sais pas où, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.